Oh My God, l'émission décomplexée sur les séries, présentée par Éric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.
Bonjour et bienvenue dans Oh My God, épisode 7. Ici, on continue à assumer nos choix, qu'ils soient ou pas dans la tendance. Et on n'oublie pas que les séries, c'est avant tout une histoire de kiff. Alors, vous êtes tellement nombreux à nous avoir dit que cette version confinée de Oh My God était sympa, qu'on fait un peu de rab. On a bien compris qu'on était déconfinés, mais nous, on est toujours là, de chez nous. On se retrouve virtuellement pour parler séries avec les copains. Salut à tous.
Salut.
Salut.
Il en manque un.
Comment ?
Il manque un copain.
Ah, mais quelle perspicacité. Bravo, on va y revenir. Elle craque aussi bien pour de la télé-réalité américaine super mainstream que pour des docus pointus sur Arte. Si l'éclectisme avait un visage, ce serait sans doute celui de Virginie de Clausade.
Bonjour à tous, et je rappelle que Kim Kardashian sera présidente des États-Unis en 2024.
On l'a bien noté pour la première émission de Oh My God, ouais. On attend. Alors qu'on la connaît toujours contente et joyeuse dans la vie, on dirait qu'elle réserve l'intégralité de ses coups de gueule à la rubrique carte blanche de My God, c'est Émilie Lopez.
Et je vais encore gueuler aujourd'hui. Bonjour. Ça va ?
Ça va
comment,
bien.
Comment va la petite queue ?
Écoute, ça va. Je ne la montrerai pas aujourd'hui, exceptionnellement. Oh, les gens viennent voir l'image juste pour avoir un petit point sur...
C'est pour ça que je mets un point d'honneur à prendre des nouvelles de ta petite queue à chaque fois.
À chaque fois, je sais bien. Il arrive souvent qu'on soit les deux seuls dans l'équipe à comprendre une référence à un moment clé d'un soap opéra des années 80, à comprendre la violence de la mort de Laura dans Côte Ouest. C'est Fabrice Dupreuil.
Eh hey, bonjour, tu ne t'es pas remis de Laura pour la mort de Laura, moi non plus, je ne me suis pas remis. Ah mais ben on n'en parlera pas aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une émission spéciale.
Absolument.
Non, on va éviter.
Tu ne seras pas invité, Émilie.
Non.
Alors, vous avez remarqué, hein, il manque quelqu'un, Selim. On pense à lui très fort. Il a une bonne raison pour être là. C'est,
on n'a pas le droit de le dire.
Validée.
Ouais.
Comment ?
On n'a pas le droit d'en parler. Donc, là,
et donc, c'est trop bien de dire qu'on n'a pas le droit d'en parler.
Menez l'enquête, chers auditeurs, sur Internet. Pourquoi ? C'est une belle raison. On l'a grave validée.
Voilà, il est pas vrai.
Mais on va penser à lui tout du long. Ça va être super.
Ouais. Oh My God.
Donc, je fais un petit sommaire. Dans la dernière partie de l'émission, on se demandera s'il y a une vie possible pour les séries comiques après Friends. Grande question. Et en milieu d'émission, les chroniques audience et carte blanche. On commence tout de suite avec les coups de cœur.
Oh my God, les coups de cœur du mois.
Bon, Virginie, je sens que tu as envie de parler. Tu n'y tiens plus.
Vas-y,
ton coup de cœur.
Alors, j'en ai deux. Nya, 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 pour faire différent. Voilà, donc j'en ai deux. Je vais aller vite. Il y en a un qui est sur Netflix qui s'appelle Catastrophe et qui est une série qui a été écrite et qui est interprétée par Sharon Horgan et Rob Delaney. Le pitch est assez simple. C'est un Américain, Rob, qui débarque à Londres, qui reste une petite semaine, qui vit une histoire d'amour très sympathique avec une femme qui s'appelle Sharon. Et puis, au moment où il va réembarquer pour les États-Unis où l'histoire devrait s'arrêter, elle est enceinte et aussi fou que ça puisse paraître, ils vont décider de rester ensemble à Londres. Et donc, il y a l'humour anglais absolument génial avec l'efficacité de l'écriture américaine. Et c'est sur une histoire de couple avec comment c'est une grossesse, en même temps, ils se découvrent, comment c'est ensuite avec les enfants, avec la belle famille, avec ces gens dont on a un coup de cœur énorme immédiatement. Mais ensuite, bah, il y a tout l'univers autour de ces gens qu'il faut apprendre à accepter. C'est vraiment très, très drôle. Et c'est des couples comme je les aime bien, c'est-à-dire c'est des couples qui ressemblent aux vrais couples, qui, moi, me font plus rêver que les couples qu'on ne connaît pas ou qui existent simplement sur une île déserte, hein, parce que vivre d'amour et d'eau fraîche est à la portée de n'importe quel con. C'est beaucoup plus dur de vivre une histoire d'amour dans la vraie vie du quotidien. Et la deuxième, alors j'ai vu qu'un épisode, donc je suis en hystérie parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode disponible au moment où je vous parle, et ça va arriver jour après jour, c'est « I May Destroy You ». Alors elle, on la connaît, c'est la jeune fille qui écrit et qui joue là-dedans, s'appelle Michaela Coel, j'espère que je le dis bien. Elle était dans une série qui avait quand même fait parler d'elle qui s'appelait Chewing Gum. Et puis la série s'est arrêtée un peu brutalement sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Eh bien, pour comprendre pourquoi, il faut regarder I May Destroy You. Elle est toujours une auteure. Elle doit rendre son bouquin qui est très attendu, sur lequel elle a eu une énorme avance. Et un soir, plutôt que finir d'écrire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort, elle va boire, faire la fête et un petit peu se droguer. Et le lendemain matin, quand elle fait sa réunion avec son éditeur, clairement un petit peu en vrac, bizarrement, elle a des remontées de la soirée et il semblerait qu'elle ne se souvienne pas exactement de tout ce qui s'est passé. Et cette Ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est qu'elle elle questionne un endroit qui normalement est propice à la littérature et pas du tout à la fiction filmée, justement, ce qui est la fameuse zone grise, c'est-à-dire l'endroit où, techniquement, elle a été dans le bar, elle a trop bu, elle s'est droguée, c'est pas bien, est-ce que pour autant faut se faire violer ? C'est la question. Et donc, fort de cet événement, elle va devoir remettre en question toute sa vie parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est absolument très mal entourée. Ce sont mes deux coups de cœur.
Ok, donc catastrophe, Netflix.
Netflix, I May Destroy You, Netflix.
D'accord, les deux sont Netflix.
Et petite parenthèse sur les séries sur des couples qui sont plus réels et un peu plus contemporains et auxquels on peut s'identifier. Il y a une série moi que j'ai découverte sur Apple TV parce que de temps en temps j'y vais, je vais jeter un œil parce qu'ils ont des bonnes séries. On en parlera plus tard avec une autre série, je crois, à moins que ce soit Céline qui était censée en parler. Ça s'appelle Trying et en fait c'est un couple qui essaye d'avoir un enfant et qui galère à l'avoir et en fait ils se posent plein de questions et c'est assez touchant et ils sont assez réels. C'est avec un acteur. Alors je me souviens pas de son nom. Je cherche depuis tout à l'heure qui jouait dans Mariage à l'anglaise avec Simon Baker qui est un film un peu sympa. C'est anglais donc c'est drôle et c'est assez impertinent et voilà je vous incite à aller regarder parce que c'est sur la difficulté de ces couples donc à avoir un bébé et après savoir si le couple est obligé d'exister à travers son bébé potentiel. Enfin voilà c'est très très sympa donc allez le voir. Surtout toi Virginie.
I May Destroy You, il y a qu'un seul épisode disponible, ça veut dire qu'il y aura un épisode par semaine ? Comment ça marche ?
Ouais. Et je suis en train de me dire que je t'ai dit Netflix, c'est une connerie, c'est OCS.
D'accord. Parce que ça m'étonnait de Netflix d'être.
Non, il y a un épisode par semaine et c'est vrai que. Alors, à la fois c'est bien et à la fois c'est pas bien. Il faudra qu'on lance un débat sur ce truc-là parce que moi j'ai eu l'habitude de binge-watcher, ce qui est quand même aussi très bien, mais t'as un peu l'impression de faire une crise de boulimie et potentiellement d'aller te faire vomir dans les toilettes après. Ça peut être des sensations bizarres, le binge-watching. Et en même temps, le principe de regarder un épisode et d'attendre, c'est quand même un truc qui était sorti de ma vie.
Ouais, mais c'est super agréable. Moi, je trouve attendre une semaine, ça veut dire que tu peux réfléchir, ton imagination travaille, c'est top.
Alors, je me dis, est-ce que le débat, ce serait pas d'avoir deux épisodes par deux épisodes ?
Ouais.
Un peu binge-watching et un peu attendre.
L'écriture, en effet, se fait de plus en plus sur deux épisodes, notamment sur les fictions françaises. Ils font ça sur deux épisodes. Deux, c'est bien.
Deux, c'est bien. Trois, c'est trop.
C'est trop, tu sais, c'est pareil.
Allez, Émilie, c'est à toi, ton coup de cœur.
Alors moi, mon coup de cœur, qui voilà, je sais, ne va pas forcément plaire à tout le monde, c'est qu'en fait, Netflix, sur son catalogue, a décidé d'intégrer de nombreuses séries de l'univers Bravo. Donc Bravo, c'est une chaîne américaine. Donc c'est que des docu-réalités. Donc ils ont mis toutes les Real Housewives. Grosso modo, les Real Housewives, c'est des nanas pétées de thunes qui passent leur temps à s'engueuler. C'est extraordinaire, c'est très très drôle.
Oui, mais alors il y a des spécificités en fonction des régions. Hein.
Exactement. Donc, alors moi, ma passion, c'est celle de Beverly Hills.
Ah moi, c'est aussi là.
Ouais. Ouais, alors c'est les originales. Ouais. Aussi, c'est les toutes premières qu'il y a eu, et ensuite ils ont fait des déclinaisons. Donc il y a New York, il y a Beverly Hills, il y en a plusieurs. Voilà, elles sont toutes comme ça. Elles ont des pneus à la place de la bouche. Elles ont de l'argent à plus savoir quoi en faire, genre des lunettes à 25 000 $ à l'eau. Et surtout, elles s'embrouillent, mais à longueur d'épisode, c'est pire que le pire des soaps, c'est pire que les feux de l'amour, c'est pire qu'Amour, gloire et beauté. Et comme c'est des vrais nanas, en plus, tu les retrouves sur les réseaux sociaux où elles continuent à s'engueuler. Donc, c'est extraordinaire. Et voilà, moi, ça me fait beaucoup rire. Ils ont aussi intégré les Kardashians. Donc, big up pour Virginie.
Non, mais surtout,
la passion pour les Kardashians.
Allez voir l'épisode 1 de la saison 1 des Kardashians. Voilà. Et après, on fait le bilan esthétique, quoi.
Oui, c'est ça. Et c'est moi personnellement, je trouve ça assez drôle de se rendre. Alors, je regarde pas les Kardashians, mais je trouve ça sympa de voir comment ces nanas-là, enfin, tout part d'une sextape et comment elles sont devenues des icônes dans le monde entier. Il y a personne qui ne sait pas qui sont les Kardashians. Même ma mère, qui a 61 balais, elle sait qui sont les Kardashians. Donc voilà, Netflix a décidé en fait d'un peu ouvrir son truc, c'est-à-dire qu'on a un catalogue de films de qualité, de séries de qualité, des trucs un peu plus légers et tout ça. Et je trouve ça bien parce que maintenant, peu importe l'âge que tu as, si tu vas sur Netflix, tu trouveras toujours un truc pour te plaire. Là où je suis un petit peu énervée.
Déjà, alors qu'on n'est même pas dans ta carte blanche.
Alors que je
pas
encore. Je gueulerai plus tard aussi. C'est que donc, quand j'ai vu passer sur mon Netflix le fait que les Kardashians arrivaient, qu'est-ce qu'elle fait Mimi ? Elle met un petit tweet en mettant « Oh, bah, j'avais pas vu que les Kardashians arrivaient sur Netflix. » Et je me suis fait déchirer la gueule. Et là, je me suis dit « Mais à quel moment tu te dis, je vais aller… » gueuler après des gens qui vont aller regarder les Kardashians. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Donc sur Twitter, je me suis pris une avalanche de trucs, genre ouais, t'as le QI d'un bulot, c'est n'importe quoi, les gens qui regardent cette merde. Mais en fait, passe ton chemin. Pourquoi tu viens me faire chier ? En plus, je regarde même pas. Donc voilà. Pourquoi tu viens me faire chier en me disant que c'est de la merde ? Si toi-même tu ne regardes pas, déjà comment tu peux savoir que c'est de la merde ? Et de deux, qu'est-ce que tu viens faire chier les gens avec ce qu'ils regardent chez eux ? Donc voilà, ça m'a un petit peu énervé, donc j'avais envie de le dire. Donc fuck les gens.
Ça s'appelle les empêcheurs de tourner en rond. Pardon ? C'est les empêcheurs de tourner en rond.
Mais c'est ça.
Les gens, leur tyrannie ne s'arrête pas quand ils sont avec toi. Il faut en plus qu'ils viennent te faire chier quand ils ne sont pas là et qu'ils ne voient même pas ce que tu fais. C'est insupportable. Le monde va mal à cause de ça.
Mais je suis tout à fait d'accord.
Mais il faut arrêter de les lire, il faut arrêter de les lire.
Je fais ce que je
veux. Il faut quitter les réseaux sociaux.
Il faut arrêter.
Arrêtons les réseaux sociaux.
Pars chez les Kardashians te reposer.
Allez Fabrice, c'est à toi.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est une série de Apple Plus, et c'est une série qui s'appelle, c'est une mini-série de 8 épisodes qui s'appelle Defending Jacob. Alors en fait, en réalité, quand j'ai commencé, je me suis dit ouais bof, parce que la trame, elle est presque banale. En gros, c'est une famille qui est bien sous tout rapport. Il y a papa, maman, le fils de 16 ans. Ils vont voir leur vie basculer quand Jacob, donc l'adolescent, est accusé d'avoir assassiné un camarade de classe. Bon, alors vu comme ça, d'abord, je me suis dit tiens, ça pourrait être une série de TF1. Tu vois, il y aurait Camille Lou, Pascal LB et Clément Rémiens pour faire le fils, tu vois. Et donc je me suis dit bon, ok, est-ce qu'on est vraiment dans l'originalité? Et en fait, petit à petit, tout ceci a l'air bien lisse et ça va évoluer assez bien. Et en fait, il y a l'effet un peu espéré parce que Andy, le papa, il est procureur, donc plus pour longtemps forcément, puisque son fils est accusé de meurtre. Laurie, la maman, elle dirige un centre pour enfants. Oui, c'est bon. Pour enfants en difficulté. Donc, ah, et ben voilà, et mon texte est effacé. Mais, et donc, et voilà. Et donc, ça sent quand même, ça sent bon le savon dans cette famille, ça sent l'eau cédar et ça sent le bégon jaune et le bégon vert dans cette petite maison où tout est propre. Donc, effectivement, ils vont être confrontés à quelque chose qui va être violent pour eux. Alors, pourquoi c'est réussi? C'est réussi parce que justement, on va voir comment le doute s'insinue, va rentrer dans cette vie familiale et va finalement tout détruire. Parce que c'est ça qui est très fort dans la série, c'est pas tellement de savoir si ce gamin a vraiment tué son copain de classe, mais c'est surtout de savoir comment le doute va tout bousiller. Il y a le doute dans l'entourage, il y a le doute bien sûr dans la famille des victimes, la famille de la victime, il y a le doute dans leur univers professionnel, et puis forcément le doute s'installe dans la famille. C'est quand même, on est dans cette question, c'est les parents se posent à un moment donné la question de savoir si leur fils aurait pu effectivement tuer cet enfant. Donc on est dans un truc qui est assez psychologique et qui marche plutôt bien parce que ça évolue, et les deux derniers épisodes sans rien dévoiler sont sûrement les deux meilleurs, puisqu'effectivement il y a cette montée crescendo du doute, et le doute qui t'assaille, toi, téléspectateur moyen.
Tu te retiens depuis tout à l'heure de sortir le coup de vite. Je te vois, je te connais.
Je n'ai rien dit. Et donc voilà. Donc plein de doutes, le doute m'habite. Et alors pourquoi c'est pas si mal? Parce que d'abord, je voulais vous parler du casting. J'allais dire un casting 4 étoiles. Bon, on va dire un casting 3 étoiles. Faut pas non plus exagérer. Alors d'abord, il y a Chris Evans qui fait le papa. Bon, alors Chris Evans, on le présente plus, mais c'est quand même super Captain America. Bon. On peut pas dire que ça soit le meilleur acteur que la Terre ait jamais porté, hein, faut dire ce qui est. Il a un truc, il faut toujours avoir l'air sévèrement burné quand même quand on joue comme Chris Evans. Et donc, par exemple, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que quand il s'appuie à une porte, tu sais, il s'appuie juste avec l'épaule et puis il croise les bras comme ça, puis il prend un air. Et donc, pendant chaque fois que je le voyais, je pensais à cette pub pour les déodorants que je voyais quand j'étais petit, donc en 1912, je le dis avant qu'Émilie me le dise, mais une série sur les déodorants qui disait, vous avez déjà vu un stick aussi large, il est vraiment fait pour nous, les hommes. Bon, c'est un peu ça, Chris Evans dans la série. Sinon, il y a sa femme qui est jouée par Michelle Dockery. Alors, Michelle Dockery, on la connaît parce qu'elle a joué dans Downton Abbey. Elle faisait la fille aînée de la famille, Lady Mary Crowley. Et c'est sûrement le personnage pour moi le plus intéressant. C'est celui qui évolue le plus. Leur gamin aussi est super. Et j'ai oublié son nom parce que j'ai plus son texte, mais il est vraiment super. Il a 16 ans. Il s'appelle Jaden Markell. Voilà, c'est ça. Et il a vraiment un truc qui est très bien. C'est que toute l'ambiguïté de son personnage, il l'a retranscrit très bien sans avoir énormément de texte. Et puis après, il y a plein de second rôle. Je vais pas vous faire tout le casting, mais il y a J.K. Simmons aussi qui est dans cette série. Je vous dis pas quel rôle il joue parce qu'on va le découvrir petit à petit. Il y a aussi Cherry Jones. Cherry Jones, on la connaît parce qu'elle a joué dans beaucoup de séries. C'est une super actrice. Bref, moi j'ai trouvé que la série, elle a un côté effectivement propre qui va très bien en fait avec le propos. C'est pas, je vous promets pas la série du siècle, mais franchement, ça vaut le coup d'aller au-delà du premier épisode et de se dire, tiens, si je vais jusqu'au bout, je pourrais avoir quand même quelque chose qui tient la route et qui est quand même bien produit, bien léché et qui est une bonne série.
Alors moi, je pense que c'est plus un coup de cœur pour moi que pour toi, en fait, en t'écoutant. Parce que ouais, moi, je l'ai trouvé dingue, cette série. Je l'ai vraiment, je pense que ça va faire partie des séries, mes séries préférées de l'année. J'ai trouvé que c'était super bien fait, très intelligent. Effectivement, c'est sur le doute et pas autre chose. Mmh. Je te trouve dur avec Chris Evans parce que pour le coup, j'ai trouvé qu'il faisait l'effort de pas enlever son t-shirt. Je te rappelle pas trop. Il produit, hein, donc il aurait pu jouer de plein de choses. Ça, il essaye en fait de dissimuler ce côté musculeux qu'il a. Et j'ai trouvé qu'il était assez fort sur un rôle qui est assez taiseux également. C'est pas simple, ils ont tous déroulé, il n'y a pas énormément de dialogue dans cette série, ils sont quand même tous beaucoup à l'intérieur. Ouais. Je pense qu'il fait une vraie belle prestation.
Ouais. Et,
bon,
est-ce qu'on peut se parler deux secondes de la com un peu bizarre que fait Apple Plus en France, c'est-à-dire l'absence de com, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas avec Chris Evans, c'est quand même Chris Evans, et les gens, ils voient son visage, ils connaissent peut-être pas son nom, mais ils voient son visage, ils connaissent le mec. Et en fait, moi, cette série, j'en ai entendu parler parce que c'est un pote qui m'a dit, ah bah il y a ça sur Apple TV Plus. C'est ça que je l'ai, Apple TV Plus. J'ai pas le réflexe d'aller voir ce qu'il y a, donc il faut me dire, parce que j'avais pris pour The Morning Show, bien sûr, hein. J'ai fait un Aston. Et si on m'en parle pas, c'est vrai que j'ai pas encore le réflexe, mis à part la dernière fois où j'ai un peu farfouillé, où j'ai trouvé la série dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, personne n'en parle, en fait. C'est assez bizarre.
Tu nous l'es pas sur Twitter, faut dire, ça joue. Hein.
Oui, non, oui, mais enfin, c'est aussi à Apple de dire, hé, les gars, au fait, on a sorti telle et telle série, et depuis The Morning Show, ils disent plus rien. C'est très bizarre.
C'est très étonnant. Moi, je me suis dit ça pendant tout le confinement, où quand même, quand on sortait de chez nous, certes, j'habite Paris, il y a des colonnes Maurice et des trucs d'affichage, mais enfin, c'est pas la seule ville de France où il y a des choses comme ça. J'étais étonnée. C'est-à-dire que là, je vais dans mon quartier, j'ai encore des affiches pour le 13 mars et le 18 mars. Vous voyez, des sorties de films, dont la vie est morte, hein, mais on pense à vous.
Ah oui, pas pour ça. Ça, c'est pas lié au manque de communication d'Apple TV, hein. C'est lié à des petits enjeux.
Je me suis étonnée. En fait, de voir la télé a eu le même problème, hein, c'est ce que tout le monde disait. Il y avait plus de pubs sur la télé parce que les gens ne sortaient plus, alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui regardaient la télé. Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'il n'y ait pas un putain de mec dont c'est le métier de faire de la com qui dise, mais profitons-en pour communiquer sur les séries qu'on a à la maison. Enfin, tu vois, il y a quand même moyen d'utiliser ces 3 mois là où on était séquestrés chez nous pour d'une façon ou d'une autre nous faire savoir quel produit il y avait, enfin, ou quelle série il y avait à regarder sur les plateformes autres que Netflix, sachant qu'en plus elles ont toutes explosé pendant ce confinement. J'ai été ahurie comme toi il y a
du peintre, hein. Chose qu'a très bien fait Canal, par contre, pour le coup. Ouais. Parce que Canal, voilà, pour le Bureau des Légendes, ils ont bien balancé un peu partout que le Bureau des Légendes était dispo en intégralité, que Validé arrivait et tout ça. Et c'est vrai que en termes de com, Canal, c'est, je pense, le fournisseur de séries qui s'est le mieux sorti. Pareil pour Killing Eve. C'est-à-dire qu'on savait exactement tout ce qui arrivait sur Canal, ce qui n'était pas forcément Netflix, oui, mais que via les réseaux sociaux. Amazon, on n'en parle même pas. Il y a eu 2-3 pubs. Après, sortie de Nabila, ils font quasiment pas de pubs. Et Apple TV Plus, que dalle, quoi. Voilà.
Bon, il faut que les plateformes communiquent plus, on est d'accord, et mieux. Je vais prendre la place de Selim, qui me permet de réaliser un rêve, c'est-à-dire de devenir moi-même chroniqueur, et de vous parler de mon coup de cœur.
Vas-y.
Mon coup de cœur, ça s'appelle Billions.
Attention, c'est un casting, hein. Si t'es pas bon, t'es viré.
Ouais, bah écoute, c'est pas toi qui décidera. Virginie, du coup, parce que t'essaies de me mettre la pression, c'est moi.
C'est vrai.
Mon coup de cœur, c'est Billions, et je l'ai découvert alors qu'elle en est à la saison 5. C'est celle qui est en cours de diffusion sur Canal+ en ce moment. Et ce serait un peu le croisement de House of Cards et Succession dans l'univers de la finance. Donc en gros, clairement, la bande-annonce, elle m'a pas donné envie. J'avais essayé le premier épisode à la première saison, ça m'avait perdu au bout de trop de personnages, de dialogues pleins de jargon financier qui était un peu abrupt. En plus, c'est une série dont on parle pas, objectivement, là, pour le coup, vraiment, autant Defending Jacob, on l'a vu un peu passer sur les médias sociaux, Billions, c'est quand même le néant absolu, on sait pas. Et paf, voilà pas que on nous annonce Juliana Margulies en saison 5. Et on sait bien que je ne rate jamais une série avec Juliana. Donc, je suis obligé de me faire l'intégrale. Donc, j'y vais un peu en reculant. Et paf, en saison 2, je suis déjà complètement accro. Parce qu'en fait, on est sur l'histoire d'un procureur et d'un dirigeant de boîte, hedge fund, donc dans l'univers financier, qui sont très puissants, qui s'affrontent, qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. On a ce petit côté succession où quand même ils sont assez détestables. Le truc sympa, c'est que on le voit pas venir, mais les femmes des protagonistes sont souvent pires que leurs maris, derrière des dehors de femmes au foyer très sympas. Tous les coups sont permis, il y a un casting qui cartonne bien, Damien Lewis de Homeland, je suis pas fan habituellement, mais là il est assez bon dans ce rôle. Paul Giamatti qui est super fort également, il y a une actrice que vous connaissez peut-être qui s'appelle Maggie Smith qui était dans Sons of Anarchy. Elle est, dès le premier épisode, elle montre toute la palette de ce qu'elle sait faire et c'est dingue. C'est un personnage vraiment multifacette et c'est super bien foutu. Voilà, c'est depuis le 3 mai. On en est à la saison 5 qui sera en deux parties, j'imagine, pour cause de Covid, j'ai pas bien compris. Donc, il y a 7 épisodes sur la partie 1 et 5 sur la partie 2. C'est dispo sur Canal, les 5 saisons. Vous laissez pas trop rebuter par ce côté financier hardcore, en fait, ça permet de révéler des histoires, on s'y retrouve à la fin. Et les histoires sont passionnantes, donc allez-y, les yeux fermés, faites-moi confiance. Qui l'a vu parmi vous ?
Moi, je l'ai pas vu, mais je suis comme toi, j'ai l'impression qu'on découvre ça à la 5e saison, j'ai pas très bien compris pourquoi, parce que ça a l'air vraiment super bien, et je me suis dit, mais comment ça se fait que... Moi, j'ai commencé à le regarder en pensant que je tombais sur la saison 1, et en fait, j'ai vu que c'est la saison 5, mais en réalité, je me dis comment la communication a pu être aussi mauvaise du coup sur cette série, pourquoi j'en ai pas entendu parler avant la 5e saison ? Elle était déjà...
Ouais. Je ne sais pas, alors...
Elle a l'air super bien.
Elle est super bien notée sur les sites de critiques, mais il y a un peu l'effet, ça met encore plus de temps, mais il y a un peu l'effet Succession. C'est-à-dire Succession, saison 1, mais personne n'en a parlé, et ça a explosé sur la saison suivante.
C'est vrai. Là, on est à
ça met encore plus longtemps.
Ouais. C'est long.
On va passer maintenant aux chroniques.
Oh my God, les chroniques.
En regardant, comme d'habitude, les audiences qui sont toujours basées sur la consommation, sur les plateformes de streaming des 1 300 000 membres de Beta Série. Et cette semaine, c'est un top 10. On commence en 10e position par un docu-série qu'on a tous vu, je crois, qui s'appelle Jeffrey Epstein, qui est sur Netflix. Alors, on ne le traite pas derrière. Je crois qu'on était tous un peu d'accord sur le fait que c'est sans doute assez mal nommé parce que c'est pas du tout un documentaire d'investigation sur l'affaire, c'est plus des témoignages et des portraits de femmes concernées, ce qui n'en rend pas le sujet forcément moins intéressant, mais c'est un peu mal vendu au départ.
Bah, si, pas forcément. Non, ben si. Quand on te voit un truc sur Jeffrey Epstein, ce que tu veux savoir, c'est comment ça se fait que ce mec est mort en prison alors que t'avais plein de gens qui le regardaient, que dans son carnet d'adresses il y a Bill Clinton. Tout ce que le monde compte de puissant et qu'il y a quand même un Lolita Express qui emmenait les gens sur la Virgin Island, quoi. Et que tu as tout le beau monde qui était dedans et bizarrement, le mec décède. Donc. Et c'est terrible, mais des témoignages de victimes ne suffisent pas à faire une histoire, en fait. C'est un trauma, c'est terrible, c'est très triste, mais c'est aussi très personnel et ça n'a pas forcément de valeur de témoignage universel, en fait. Et là, dans la façon dont c'est traité dans la série, c'est quand même, selon moi, et sans manquer de respect aux victimes, parce que c'est pas le but du tout, mais c'est le petit prisme de la lorgnette, quoi. Et c'est le truc un peu racoleur, accessoirement, j'ai trouvé.
Ah, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Au contraire, j'ai trouvé ça super intéressant, justement, de revenir un peu, à la parole de la victime et de rappeler un petit peu que oui, effectivement, un mec qui exhibe sa teub devant toi, ça reste une agression sexuelle. T'es pas obligé de te faire violer pour que ce soit une agression sexuelle et montrer aussi le traumatisme que tu peux avoir derrière. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres docs, mais je pense qu'on le martèle pas assez. C'est qu'il y a encore plein de gens pour qui, à partir du moment où c'est pas un viol, où il y a pas pénétration, ça n'existe pas, ce n'est pas une agression et que tu peux l'oublier tranquillement. Alors que oui, enfin, tu vois, comme moi, quand je reçois des dick pics, je suis désolée, c'est une agression. Et les gens, voilà. Et moi, j'en peux plus. Arrête de m'envoyer des
Il y a quelqu'un qui t'en reçoit ça encore.
Oui, je te jure.
Il y a quelqu'un qui n'écoute pas l'émission.
Je sais bien de qui tu parles. Mais néanmoins, indépendamment de ça, ce que je trouve mal nommé, c'est sur l'affaire Epstein. Parce que, pardon, mais ce qu'il y a d'intéressant dans l'affaire Epstein, c'est que ça touche le pouvoir.
Oui, bien sûr.
Et ce qu'il y a d'intéressant chez lui. Ensuite, on peut parler des traumas, et tu as parfaitement raison dans ce que tu dis, mais pour moi, ça n'est pas le sujet d'Epstein. C'est-à-dire qu'on pourrait justement faire une série de documentaires très intéressantes sur qu'est-ce qu'un traumatisme sexuel chez les femmes, chez les hommes, quel mécanisme ça prend. Tout ça, c'est un sujet hyper intéressant, mais je trouve que ce n'est pas le sujet de l'affaire Epstein. Pardon, mais dans le cas de l'affaire Epstein, au-delà des victimes, plus intéressant que les victimes, il y a l'organisation de ce monde. C'est-à-dire qu'on est, on nage, c'est comment dire, l'allégorie, la matérialisation des fameuses théories du complot. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire les théories du complot, les complotistes, les marcheurs, ça n'existe pas. Bah pardon, mais quand t'es face à l'affaire Epstein, t'as quand même un peu froid dans le dos, parce que si, t'as quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'États, de gouvernements, de gens importants qui se sont arrangés entre eux pour que tout ça passe au milieu du filet. C'est moche, quoi. Et c'est moche de pas vouloir aller mettre les mains là-dedans, parce que ça fait partie, au même titre que des Donald Trump et des machins, des histoires qui font monter cette croyance dans les théories du complot, parce que quand tu es face à l'affaire Epstein, tu es clairement face à un complot, à des gens qui sont unis pour distribuer la vérité, quoi.
Après, je pense que juridiquement, ils pouvaient pas. Il y avait plein de trucs qu'ils pouvaient pas faire. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait des choses que je savais pas sur cette affaire. Donc, du coup, en fait, c'est en ça que j'entends le côté, c'est pas un truc d'investigation. En fait, c'est plus, on vous raconte l'affaire, mais de ce que vous savez déjà, mais moi, je savais pas tout. Donc du coup, j'ai appris des trucs quand même. Je m'étais pas documenté plus que ça sur Epstein. Mais effectivement, il manque tout un pan, mais juridiquement, c'est impossible.
Le problème, c'est qu'on est mal accompagné dans cette série. C'est-à-dire qu'on a cette succession de témoignages qui sont tous plus horribles les uns que les autres. Mais on se dit, bon, et alors donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve qu'il manque un truc dans cette série. Donc, elle aurait presque dû attendre un peu plus qu'il y ait autre chose à raconter et à le faire autrement, quoi. Pas comme ça avec, les victimes, c'est super de leur donner la parole. Mais du coup, et donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà, je trouve qu'il y a un mélange des genres qui fait que ça fonctionne pas bien, en fait.
Je propose qu'on fasse 10 minutes sur chacune des séries qui sont dans le top 10. Je préviens la technique, donc on va un petit peu déborder. On sera encore là demain matin. On devrait à peu près y passer la nuit.
Excuse-nous,
on va faire le reste du classement un peu plus rapidement, mais c'est vrai que sur celle-là, ça valait le coup de s'y arrêter parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler entre nous déjà. On n'a pas grand-chose à dire sur Westworld, qui est en 9e position et qui est dans le classement depuis un moment. Qui nous endort.
C'est chiant, voilà.
Peut-être que les gens qui sont devant se sont endormis devant les 1 300 000 membres dorment actuellement devant Westworld. Et du coup, ça compte comme ça étant un succès. Dead to Me, avec la dernière saison qui est arrivée récemment, est en 8e position. En 7e position, je trouve ça bien. Il y a dans le classement pour la première fois un animé japonais qui est produit par Netflix, qui s'appelle Baki, qui cartonne en ce moment sur Netflix. C'est la 3e saison. C'est dans l'univers des arts martiaux. Alors moi, c'est pas ma cam, les mangas, donc je suis pas client, mais je trouve ça bien de rappeler que dans les séries, il y a aussi cette consommation-là qui a toujours été importante, mais qui explose notamment avec le côté mainstream qu'apporte Netflix. Et c'est bien d'avoir ça dans le classement. Et si un jour on décide d'en faire un petit débat, on invitera des spécialistes. Je suis pas sûr qu'aucun d'entre nous soit complètement dans le sujet. En 6e position, Sex Education. En 5e, La Casa des Papel. Vous remarquez comment je passe vite. 4e position, Killing Eve. Moi, je continue à être déçu par la saison 3. Alors, tout le monde me dit, ah ben non, pourquoi, c'est super.
Non, c'est
vraiment, ça m'a perdu. Donc, j'essaie de regarder, mais ça m'a perdu. Vous l'avez vu, vous êtes d'accord ou
totalement.
D'accord.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis très déçu.
Mais les deux premières saisons,
j'ai pas tout vu. Voilà, j'ai pas encore vu l'intégralité, mais le peu que j'ai vu m'a fait royalement chier. Voilà, j'étais très déçue. En fait, j'en attendais tellement que je me suis dit, bon, bah, ah ouais, ok. Donc, en fait, t'es en train de te foutre de ma gueule et de me faire perdre mon temps. C'est dommage, j'aurais dû regarder Westworld.
Moi, j'ai jamais pensé ça, par exemple. Alors, sur la 3e marche du podium, on a enfin la confirmation que Fabrice et moi avons une influence sur ce monde qui est énorme, puisque Dynasty. Arrivé avec sa moins bonne saison ever, la dernière saison, mais moi qui suis un fan devant l'éternel, là je trouve qu'ils abusent un peu.
Là, c'est n'importe quoi.
C'est vraiment n'importe quoi.
Vraiment n'importe quoi.
Il y a des trucs qu'on acceptait, mais là ça y est, on n'accepte plus. Mais c'est à ce moment-là que Dynasty devient le succès d'audience sur Netflix, en 3e position du classement cette semaine. En 2e position, Space Force. Et on va pas s'y arrêter maintenant parce qu'on va s'y arrêter après avec Virginie. Et la première position, c'est Snowpiercer sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, dystopie dans un univers de glace, glace post-apocalyptique. C'est tiré du film de Bong Joon-ho. Ouais. Et c'est, paraît-il, très bien, sympa. Voilà, très bien, tendance sympa. Mais ça cartonne en audience, donc c'est parfait. On va... passer aux cartes blanches.
Oh my God!
avec Virginie pour commencer. Je rappelle, les cartes blanches, c'est le moment où les chroniqueurs peuvent parler de ce qu'ils veulent en mode étonnement, plaisir coupable ou coup de gueule quand on s'appelle Émilie. Et Virginie va commencer en nous parlant notamment d'une des séries qui était dans le classement.
Ouais, alors je vais en mettre deux, enfin je vais en parler deux, mais qui m'ont déçu pour les mêmes raisons, c'est Little Fire Everywhere et Space Force justement dont on vient de mentionner. Alors bon, c'est deux séries avec deux comédiens énormes et qu'on adore. Pour, dans le cas de Space Force, c'est Steve Carell, donc a priori on te dit Steve Carell. Oh, oh, oh. Rigolade. Effectivement, si t'as 15 ans que tu ne connais pas l'univers de Steve Carell, regarde Space Force, tu seras heureux. Si tu as, comme moi, 39 ans et que tu connais l'univers de Steve Carell, tu vas dire, mec, tu vis sur les acquis, là. Au niveau de la créativité, tu t'es perdu. Pareil avec Reese Witherspoon dans Little Fire Everywhere, c'est-à-dire que c'est l'adaptation d'un roman qui a cartonné. On retrouve Reese Witherspoon dans ce qu'elle sait très bien faire, c'est-à-dire la Madame Parfaite, avec la belle maison, le bon mari, les bons enfants, bien élevée, personnalité de type A, là, un peu psychorigide, qui se confronte à une voisine afro-américaine qui est jouée par Kerry Washington.
Qu'on adore.
Alors qui a l'air très mystérieuse.
De Reese ou de Kerry?
Les deux.
Qu'on adore. Ah oui,
les deux.
Non, parce que... Ok, on reviendra sur le jeu de Kerry Washington, du coup.
Je suis d'accord avec toi.
On va tout Kerry Washington, j'ai lâché là. Alors, Reese Witherspoon, épisode 1, elle m'a saoulée parce qu'en fait, je l'ai déjà vu faire ça. Hein. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'elle me propose le même rôle. Donc, j'étais ravie dans le Morning Show parce qu'enfin, elle changeait un peu. Je sais qu'elle le fait bien. Mais là, elle a carrément des tocs et des travers, quoi. C'est-à-dire, tu arrêtes de nous. Elle enfile ce rôle comme on enfilerait un jogging. Je suis désolée, on n'est pas assez intime. Et Kerry Washington, elle joue le mystère. Elle joue tellement le mystère qu'elle me fait zapper parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre de savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Est-ce qu'elle fuit? Elle m'emmerde. Juste, elle m'ennuie. C'est quand même
rappelé. Voilà. Moi, ça, c'est l'effet Kerry Washington. Hein.
Et pour Space Force, bon, bah, tu revois, moi, j'avais adoré pareil Carell dans The Morning Show où je trouvais qu'il s'attaquait à un autre versant. Tu vois, je me suis dit, putain, un tournant de carrière. Je me suis dit, le mec va proposer autre chose et c'est super. Avec il a emmagasiné beaucoup de comiques en lui et je trouve que quand il aborde des rôles dramatiques, il y a quelque chose de vraiment extrêmement intéressant dans The Morning Show comme il est. Et du coup, le retrouver dans Space Force où il joue un général, le premier général de la Space Force, c'est-à-dire l'armée qui va envoyer des gens dans l'espace et en particulier sur la Lune, parce que le président qu'on comprend être Trump en creux dans la série, enfin en tout cas référence Trump, à une nouvelle lubie, c'est il veut des boots on the moon, donc il veut des boots hein, on the moon, sur la lune. Donc il veut envoyer quelqu'un, donc tout le monde cède aux caprices présidentielles. Et donc il y a Steve Carell là-dedans, mais pareil, il a remis son vieux jogging, rien de neuf sous le soleil, et on l'a déjà vu faire ça, mais en mieux avant. Donc là, c'est juste, la vieillesse, c'est un naufrage. J'ai pas aimé.
Mais, non mais c'est vrai qu'il est un peu gênant, il est un peu gênant en fait dans ce jeu-là, on se dit c'est bon. Et puis là, du coup, tu dis, oh là là. Et comme c'est pas extrêmement drôle, quand même, c'est que ça devient gênant, quoi. Et moi, j'ai arrêté au bout de 2 épisodes. Je me suis dit, c'est bien, là, je vois à peu près.
Je fais pareil. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'originalité, eux, dans leur, Reese Witherspoon dans Little Fire Everywhere ou Carell dans Space Force. J'ai trouvé que les deux, c'était ça. C'est que vous l'avez mieux fait dans des trucs bien plus écrits, bien plus abusifs, bien plus drôles. Je te dis, même La Vengeance d'une Blonde, quelque part, qui pour moi sont des films occultes, sont bien plus subversifs et originaux que Little Fire Everywhere. Quoi. Donc c'est un peu dommage. Si Dieu, c'était il y a 20 ans. On n'avance rien avec The Morning Show. Elle a proposé quelque chose de neuf et elle revient là en tant que productrice là-dedans. Je suis déçue. Voilà. Je reste fidèle à Reese, mais bon, là, on a quand même attaqué le capital confiance. Encore un crédit ou deux sur une série, et après, je ne serai plus son public. Je vous le dis.
Je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord avec toi sur le fond. C'est évident qu'elle joue le même rôle encore. Elle revient à ce rôle qui l'a façonné. Mais je ne sais pas comment dire. Il y a un côté. Ça me remplit de bonheur. Je suis content de l'avoir dans ce rôle. Ça me fait plaisir. Je trouve qu'elle fait le job exactement là où l'attend. Elle le fait tellement bien. Émotionnellement, j'ai envie de ça. J'ai envie qu'elle me serve ça parce qu'elle le fait divinement bien. C'est quand même une ligne de crête toujours. Hein. On rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément consommé tout l'œuvre de Reese Witherspoon qu'à chaque fois, c'est sur la ligne de crête du personnage. Détestable, adorable, parfait, ou tout son contraire.
C'est exactement le même rôle que l'autre, là, les Little
Big Little Lies.
partout. Ah oui, mais je suis en train de
dire. Ah oui, c'est le même personnage.
C'est-à-dire que, le même personnage. Pardon, mais j'adore qu'elle me le fasse partout.
Mélangeable. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'incestueux là dans l'écriture. Mais c'est pas possible en fait que tout le monde pique à tout le monde. Enfin, moralité, plus personne n'a d'univers en fait. C'est voilà.
Moi, ouais, enfin, après, c'est plongé dans des univers très différents. C'est le même personnage, mais entre oui. l'univers suranné de Big Little Lies et celui
bah non,
de Little
Lies. Ouais,
ouais.
Non,
la c'est... comparaison est un peu non, à part un personnage.
La... Mais... C'est toujours la même histoire, la belle maison, le beau mari, les beaux enfants. Et puis en fait, quand on creuse derrière l'image de façade, eh ben, c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on croit. Ah, mon Dieu, waouh.
Mais le problème, c'est Kerry Washington quand même, Emily. Non
arrête
ah, moi, je trouve vraiment que c'est ça qui fait que la série est pour moi...
Ah ouais, mais Kerry Washington, qu'est-ce que vous lui reprochez à Kerry Washington?
Moi, j'ai... Elle
était
plus tombée
sur My Dinosaur, Vélociraptor.
Ouais, et ça, c'est vrai.
Terrible. Donc, c'est un vrai problème.
Non, c'est puis ça. Alors, moi, elle joue comme... Vas-y, vas-y.
Elle joue comme dans un soap en plus. Chaque émotion est appuyée par un mouvement, des yeux, la bouche.
Attends, à sa décharge, excuse-moi, mais la meuf n'a strictement rien à jouer parce que tu comprends, elle est en fuite, elle est artiste, donc elle fume de la beuh.
Ah ouais, ouais. Et elle fait du collage et des gommettes.
Et le scénariste, comment ça se passe? C'était la grève?
Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi, ça tient pas du tout. C'est... Et puis tout est grosse stabilité. Attendez, regardez, vous avez bien compris là. Ah, là c'est très mauvais. Ouais. Voilà. Mais pour le coup, moi j'ai bien aimé Reese Witherspoon. Effectivement, je suis comme toi, Eric. Moi, elle peut me servir la même soupe. Si la soupe est bonne, je la prends. Mais comme, comme le reste autour, le reste du dîner est pas très bon.
Tu es mal reçu. T'es mal reçu.
Ouais.
Ces gens ne savent plus recevoir. Voilà ce que
Il vaut mieux aller chez les Kardashians, là-bas, on sait te recevoir.
Ah bah, en tout cas, c'est bien, vous donnez vachement envie d'aller regarder la série, les gars.
Ah bah, ouais.
C'était mon petit coup de gueule, quoi. J'en ai... c'est chiant, quoi. C'est tout le temps. T'es quand même toujours sur les mêmes. En plus, pardon, mais nous sommes devenus, pas que nous quatre, les spectateurs en général, on est devenus extrêmement éduqués. C'est-à-dire que les scénarios, on est quand même, malgré nous, devenus critiques tous. C'est-à-dire que tu connais les ressorts, tu sais que le voyage du héros, le machin, le truc qui doit arriver, qui va le faire changer de chemin, qui va être, tu vois, les scènes d'exposition. Même si t'as jamais lu comment on faisait un scénario, on a tellement bouffé de séries et de films qu'on sait comment ça se passe. Donc, il y a un truc où quand même, quand tu t'appuies sur des trucs un peu branlants, où tu dis, où tu comptes sur le spectateur et le travail que lui va faire dans son canapé malgré lui, c'est hyper dommage, quoi. Et là, t'as quand même une super actrice, Kerry Washington. Je connais pas bien son œuvre, donc je vais lui apporter le bénéfice du doute de savoir jouer. Mais là, c'est pas fait.
Il faut que tu regardes Scandale un jour.
Regarde Scandale. J'aime beaucoup Scandale, donc d'accord. Je vais essayer de rattraper Kerry par Scandale. Ça marche.
Et
sinon, il y a un film qu'elle a fait aussi qui avait été joué à Broadway. Je te redonnerai le nom et qui est sur Netflix. Machin sonne, je sais plus, je te redonnerai le nom et où elle est très bien aussi dedans. Parce que moi, j'aime beaucoup.
Allez, Virginie, c'est à toi sur ton coup de gueule.
Émilie. Je vais pas mal le faire. Moi, mon coup de gueule. Parce que c'est rare, en plus, c'est rare quand je gueule. Hein. Non, alors, ouais. J'étais furieuse. J'ai commencé, et je n'ai pas encore fini, à regarder la quatrième saison de 13 Reasons Why. Alors, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est que 13 Reasons Why. La saison 1, pour moi, était extraordinaire et même nécessaire. Voilà. La saison 2, donc la saison 1, c'était une jeune fille qui se suicidait et qui, par le biais de cassettes audio, expliquait toutes les raisons qui ont mené à son suicide, dont le fait qu'elle a été violée par un de ses camarades de classe. Mais je spoil, mais parce que la série, elle a 44 ans, c'est bon, à un moment donné, je peux dire les choses. La saison 2, c'est donc sur le procès de son agresseur. La saison 3, c'est sur la mort de son agresseur qui se fait tuer, donc qui l'a tué. Et là, la saison 4, en fait, à la fin de la saison 3, bref, il y a tout un imbriglio, et la saison 4, ça n'a plus rien à voir avec la série que c'était. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec un espèce de « How to get away with murder ».
On va essayer...
Oui, mais non. Mais non, parce qu'en fait, moi, quand je regarde 13 Reasons Why, j'ai envie d'avoir une série qui va m'aider, je sais pas, enfin, qui peut aider des ados qui ont des problèmes ou quoi que ça. Là, en fait, c'est pas du tout la série qu'on m'avait vendue à l'origine. J'ai regardé le premier épisode. Il était long. J'ai eu l'impression qu'il durait 4 heures. Il a duré 1 heure et quelques. Mais c'était long, c'était chiant. Je ne vois pas. En fait, je suis très énervée parce que je me dis, mais putain, pourquoi faire une suite pour faire cette sombre merde-là? C'est-à-dire que ce qui était à l'origine, une super série vraiment sociétale, vraiment nécessaire, qui pouvait aider certains mômes et qui était intéressante même quand t'es plus vieux, genre quand t'as un peu plus de 30 ans, trois fois rien. Voilà, tu peux la suivre quand même. Et là, je me retrouve avec un truc que j'ai déjà vu 15 fois. Et pourquoi faire ça, en fait? Et en fait, plus ça va et plus je réfléchis à toutes ces séries qui se sont dit, comme ça a bien marché, on va continuer jusqu'à ce que ça devienne une grosse daube et qu'on vous fasse un dernier épisode à chier, on va vous tirer les larmes et juste, voilà, pour le profit. Et ça me saoule. Voilà. Donc, n'allez pas le voir. Franchement, ça n'a aucun intérêt. A priori, on m'a dit que les deux derniers épisodes étaient, le dernier épisode était assez émouvant parce que pour le coup, comme ils savaient que c'était vraiment le dernier, ils ont mis, voilà, ils ont sorti les violons. Donc, je vais regarder le dernier épisode pour chialer un bon coup parce que je suis une chialeuse. Mais n'allez pas voir cette merde. Il y a plein d'autres séries à regarder que de regarder la saison 4 de Certaines nous alloyer. Voilà.
Fabrice, c'est quoi cette carte
blanche? Moi, ma carte blanche, c'est j'ai dit stop aux séries américaines et je me suis dit, tiens, si j'allais un peu m'emmerder à regarder une série qui se passe dans l'Ontario, une série canadienne qui s'appelle Cardinal, qui est sur MyCanal. En fait, c'est la quatrième saison qui vient d'arriver sur MyCanal et moi, j'avais vu déjà les trois premières saisons, donc je me suis replongé dans la quatrième. Pourquoi j'aime bien cette série? Parce que, vous savez, elle a ce côté d'écriture efficace à l'américaine avec quand même un univers qui n'est pas l'univers américain et qui va davantage me faire penser aux séries nordiques, notamment. Si je devais faire la première comparaison, ça serait peut-être, ça ressemble un peu à, l'univers est un peu proche de celui de The Killing, vous voyez, de la version américaine de The Killing, certes, mais avec ce truc quand même, avec des forêts, des lacs et plein de meurtres, tout dégoûtants qui sont commis à l'intérieur. Mais ceci dit, c'est très bien joué et surtout, j'ai pas ce truc, cet excès tout le temps, les courses-poursuites. Non, là, la course-poursuite, elle a l'air d'être vraiment une course-poursuite. La flic qui court après, elle est fatiguée, elle s'arrête parce qu'elle est fatiguée, elle me fait pas les marathons, un marathon. Bref, je trouve que cette série, elle est bien. C'est l'histoire d'un flic qui s'appelle Cardinal, sa collègue, elle s'appelle Louise Delorme, et ils sont dans une petite ville d'Ontario. Et chaque saison, chaque fil rouge de chaque saison est un meurtre, souvent bien atroce d'ailleurs, sur lequel ils vont enquêter, tout en faisant évoluer eux-mêmes leurs personnages. Ce sont plutôt des taiseux. C'est joué par Billy Campbell pour. Notre ami Eric, bien sûr, c'était le jeune Luke Fuller, l'amant le plus connu de Stephen Carrington dans Dynasty en 1984. Mais sinon, depuis, il a fait beaucoup de choses. Il a joué dans Once and Again. On l'a vu aussi dans The Killing. On l'a vu aussi dans
Les Chroniques de San Francisco.
Et Les Chroniques de San Francisco, exactement. Je trouve que c'est un super acteur qui est pas justement dans la démonstration, etc. Et puis, la jeune fille qui l'accompagne, on va croire que je fais des lubies. C'est Karine Vanna. C'est une actrice canadienne qui a beaucoup de prix, qui remporte beaucoup de prix dans son pays et qui a joué dans Revenge.
Avec Madeleine Stowe.
Mais oui, et je peux même pas mentir, la première fois que j'ai regardé Cardinal, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un type qui avait joué dans Dynasty et une nana qui avait joué dans Revenge. Et oui, je ne peux pas me refaire. Mais la série, et c'est pas une excellente série en soi, mais vraiment, il y a un univers un peu différent. Et je me disais, j'aime bien cette série parce qu'elle me propose un peu autre chose que ce que je peux voir ailleurs. Et donc, voilà, si vous avez envie de suivre une série bien découpée, bien écrite, allez-y, foncez. Ça s'appelle Cardinal et c'est sur MyCanal.
Le challenge pour les prochaines émissions, ça sera d'en faire une sans parler de Revenge. Et ça va être. Ça va être tendu, quoi.
Ouais. Impossible.
Dis, patron, comme je vois qu'il nous reste un peu de temps, est-ce que j'ai le droit de voler un petit coup de cœur en plus ou pas?
Alors, si tu le fais très très vite, est-ce que tu prends sur le débat ou sur ma chronique à moi, ce qui serait quand même.
Non, alors je le garde pour la prochaine. Non, je vais faire un teasing pour la prochaine émission. La prochaine émission, je vous parlerai de Scam. Grande révolution, on adore.
On en a déjà un peu parlé, mais avec plaisir.
Oui, mais vous, c'est chelou pour vous, à votre âge, de regarder Scam. Genre, on en parle. Moi, j'ai des enfants, c'est légitime.
Mais c'est une justification de balle.
J'ai mon fils, moi, mon chat. Il regarde la télé avec moi. Excuse-moi, pardon.
On est tous fans de Scam. Ouais. Allez, je vous fais alors ma carte blanche à moi, du coup, elle va être liée au fait que j'ai demandé sur Twitter à nos auditeurs de nous dire ce dont ils aimeraient qu'on parle.
Et alors?
Alors, j'ai eu quelques retours. On m'a parlé de Buffy, mais alors Buffy en 3 minutes dans une carte blanche, c'est pas possible. Hein, ça sera une émission dédiée, on est bien d'accord.
Moi, j'aimerais qu'on m'explique un jour pourquoi Buffy, quoi. Voilà, par exemple.
Ben, on fera une spéciale sur le sujet. Ça sera un débat. Peut-être même la prochaine. Claude et Koh-Lanta, moi j'adore le sujet, mais alors c'est un peu moins série télé, hein, donc j'aurais eu des tonnes de trucs à dire. Mais
vous savez que je suis assez fière parce que je n'ai jamais de ma vie entière, j'y tiens, regardé un épisode de Koh-Lanta. Ah, c'est bien Koh-Lanta, t'es folle.
de toute ma vie.
Juste tellement pour sur ta culture.
Jugez-moi, je vous en prie.
J'ai retenu deux des séries qu'on m'a demandé. La première, elle s'appelle Dear White People. Elle est sur Netflix. Alors, la toile de fond, c'est un campus universitaire prestigieux en proie aux rivalités. Enfin, en gros, c'est Elix, Elite et toutes ces séries ados que je déteste. Donc, ça part un peu mal. Mais ici, la storyline, c'est en fait une étudiante métisse qui anime une émission. Dear White People, une émission de radio qui dénonce les comportements racistes. C'est illustré dans chaque épisode par des typologies de comportements et ça commence par le blackface dès le premier épisode. Trois saisons, ça a commencé en 2017. C'est assez agréable à regarder. On apprend des choses. Même s'il y a un petit côté Gossip Girl, hein, clairement, mais ça fonctionne assez bien sur des choses qui résonnent particulièrement. Alors évidemment, je l'ai regardé là en ce moment où le sujet est quand même un peu partout et c'est intéressant en fait de le voir traité 2 ans plus tôt. Il y a des moments un peu profonds, il y a des moments drôles, il y a notamment, donc on va reparler notre ami Kerry, le visionnage d'une série. Donc ils font ce visionnage en groupe au sein de ce campus. La série s'appelle Defamation et c'est une parodie de Scandale. On comprend assez vite parce qu'on a une actrice qui joue aussi mal que Kerry Washington avec le bureau du président et on voit les réactions de cette communauté en train de regarder la série et c'est vraiment à mourir de rire. Je l'ai partagé sur Twitter et c'est sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça vaut le coup vraiment, le pastiche est très très drôle. Donc il y a des moments très légers. Ouais,
non, je dis surtout pour entamer, là on en entend beaucoup parler avec tout le climat, bah, parce que ça y est, on est déconfinés, donc on manifeste, hein, apparemment c'est l'un va avec l'autre. Et donc avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui, c'est une série quand même vraiment intéressante pour commencer à se questionner. Je sais qu'il y a des gens qui ça fait peur ou qui se sentent très agressés, et c'est une façon douce de commencer un processus de réflexion sans se sentir agressé, et donc de fait sortir de là moins con qu'on y est rentré, ce qui est un bien pour l'humanité dans son ensemble. Il faut toujours saisir l'occasion d'être moins con.
Tu as absolument raison sur cette entrée en douceur sur le sujet. C'était exactement la clôture que j'avais. Je pense que pour ça, elle est nécessaire, même si parfois il y a des facilités qui peuvent rendre le tout un peu énervant.
On part de loin, tu vois, quand même.
Ça vaut le coup d'y aller. La deuxième série qu'on m'a demandé, alors là, il n'y a plus du tout de scène drôle et légère. Ça s'appelle I Know This Much Is True. Et j'aurais pu la mettre en coup de cœur au final. C'est le destin croisé de deux frères jumeaux. L'un est atteint de schizophrénie paranoïaque, rien que ça. L'autre, en gros, va tout faire pour lui éviter l'hôpital psychiatrique. Alors, on assiste à la plus grande concentration de malheur qu'on ait jamais vue sur une vie et une mini-série de 6 épisodes. C'est-à-dire que ça s'enchaîne à une vitesse terrible. Donc, c'est tout sauf une promenade de santé. Hein. Le ton, c'est âpre, asphyxiant, douloureux. On est au bord de l'asphyxie et souvent, c'est quasiment insupportable. Et dès la première scène, la semaine qui sépare la diffusion, là, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, de chaque épisode, elle est nécessaire. Je ne pense pas qu'on puisse binge-watcher cette série, enfin, si on veut sortir de là, sain d'esprit. Mais en fait, les questions qui se soulèvent au fur et à mesure et le fait qu'on ait le temps de cette réflexion après chaque épisode fait que c'est douloureux, mais on y retourne. On a besoin de comprendre et de faire ce voyage avec eux. C'est une expérience assez étonnante et assez hypnotisante. Il y a un casting fou. Alors, Mark Ruffalo, on en a beaucoup parlé parce qu'il fait, en effet, il est dans une prestation qui va sans doute lui valoir tous les prix d'interprétation des remises de prix télé. Il a perdu 7 kilos pour jouer l'un des frères, il en a pris 15 pour jouer le deuxième. Il est dingue, il est producteur, c'est vrai, mais il y a tout le reste du casting.
Comédie Murphy, mais en pas drôle.
Comment ?
Il fait tous les rôles Comédie Murphy, mais en pas drôle. Oui, c'est ça.
Exactement. Juliette Lewis, on est content de la retrouver parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue et elle est
géniale
dans tous les épisodes, mais c'est chouette de la voir. Mélissa Léo, qu'on voit dans beaucoup de séries également, qui là est très présente. C'est un peu mon revenge à moi de Good Wife, Archie Panjabi, dont on a déjà parlé, qui donc se connaissent dans la vie, mais qui est quand même une actrice exceptionnelle. Elle le prouve encore là. Elle est dans Run également avec un rôle très différent. C'est une putain d'actrice et elle est vraiment bien dans cette série-là aussi. Il y a Rosie O'Donnell. J'ai mis 3 épisodes à la reconnaître. Je savais qu'elle était dedans. Je n'ai pas vu que c'était elle. Elle est absolument étonnante. Elle est vraiment dingue avec un très beau rôle. Et il y a un petit jeune qui s'appelle Philippe Ettinger. Alors, petit jeune, il a 20, 25 ans. Non, je crois que l'acteur a même 30 ans, mais il joue le rôle des deux jumeaux, lui aussi, un seul acteur pour les deux jumeaux, au moment où ils sont universitaires. Il est absolument dingue, il vaut au moins la prestation de Mark Ruffalo dans un deuxième rôle, donc je pense que lui aussi va rafler pas mal de prix. Donc je déconseille le binge-watch, mais il ne faut pas passer à côté de cette série, elle va vous marquer pour un moment, c'est 6 épisodes, le 6e épisode est arrivé là, début de semaine dernière, et c'est sur OCS, donc vous allez foncer, et c'était une superbe entrée en matière pour parler de rire et de série comique dans ouais. Le débat qui suit. Allez, on y va, le débat.
Oh my god, le débat.
Alors là, ce qui est super, c'est que j'ai fait une Fabrice, j'ai plus du tout de documents, donc je n'ai plus du tout de conducteur sous les yeux, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Alors l'idée, c'est que Friends, ça s'est arrêté il y a 15 ans, 16 ans maintenant. Ouais, on est tous tristes de ça, mais la question, c'est...
Plus que ça. C'était en 2000,
ça va. Sauf Virginie, mais globalement, quand même, le monde entier est triste de ça.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette date? Est-ce qu'il est arrivé des nouveaux genres sériels, des nouveaux types de séries comiques? Est-ce qu'on a essayé d'imiter ce genre sitcom? Est-ce qu'il a disparu pour toujours? Où est-ce qu'on en est? C'est la question qu'on va se poser à travers un débat maintenant.
Oh! My God.
C'était bien 16 ans, t'avais raison.
Ouais.
Ah, t'es méchante.
Ouais. Non, c'est parce que tu le regardes tous les ans, mais c'est 16 ans.
C'est ça. Je me vois pas vieillir, surtout.
Alors, pour commencer, on va trouver cet abcès-là tout de suite, puisqu'on parle de Friends et que visiblement tout le monde n'est pas d'accord. On est quand même plusieurs à penser que Friends c'est une des rares séries qui vieillit pas, qu'on peut encore découvrir aujourd'hui malgré le décalage de 16 ou 26 ans dans le temps, même pour le début de la série. Ça fonctionne. Alors Virginie n'a pas l'air d'accord. Donc Virginie, tu n'aimes pas Friends?
Mais en fait, non, je n'aime pas Friends, parce que pour moi, c'est trop neutre pour être aimable ou pas aimable. Mais l'engouement me dépasse, mais ça me dépassait déjà à l'époque. C'est-à-dire, je trouve ça très sympathique, mais j'ai jamais trouvé ça extrêmement... Enfin, j'ai jamais ri devant Friends, j'ai éventuellement fait.
Ouais.
Voilà. Oui. Et donc j'ai regardé, si tu veux, puis c'est tellement multidiffusé que malgré moi j'ai tout vu, que je le veuille ou non. Mais je n'ai pas compris, moi, les gens qui se sentaient comme ça abandonnés à la fin de la série, que les gens aient regardé en groupe, etc. Je n'ai même pas compris sur quoi on s'accrochait, parce que pour moi les personnages n'étaient pas crédibles dans la vie, donc il n'y avait pas de capacité d'amour réel face à eux. Donc je suis passée complètement à côté de Friends. Donc pour répondre à ta question du débat, il y a plein de séries que je trouve beaucoup plus drôles que Friends. Catastrophe.
On va regarder sur les 10 ou 15 dernières années. Ouais. C'est quoi, Virginie, les séries qui t'ont fait rire?
Catastrophe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, m'a fait vraiment rire, où j'ai eu des larmes aux yeux en riant sur ce couple qui est sur... Okay. Ouais.
Voilà, donc, mais toi, tu ris quand tu te brûles, c'est pour ça. Hein.
Et non, mais okay, on va aller voir Catastrophe pour bien se rendre compte.
Très très drôle, non mais vraiment, mais beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus ancré dans le réel. Friends, pour moi c'est Hélène et les garçons qui a grandi.
Oh, non, alors pas du tout. D'abord, c'est beaucoup mieux écrit qu'Hélène et les garçons.
Ah, mais oui.
Il y a quand même une liberté de ton qu'il n'y avait pas tellement à l'époque. Et surtout, ce qu'il y avait de nouveau dans cette sitcom par rapport aux sitcoms qu'on avait vues jusqu'ici, c'est que toutes elles étaient ancrées souvent sur un univers très familial et que pour la première fois, on nous collait 6 amis, 6 potes. Et je pense que moi, pour avoir revu encore les 10 saisons l'an dernier, pour les avoir montrées à quelqu'un de plus jeune que moi, et qui a adoré et qui est pas du tout de la même génération, parce que je pense que le sujet reste universel, et surtout la force de cette série, c'était qu'elle était écrite et que au-delà de l'identification qu'on pouvait avoir sur les personnages, justement, ils n'étaient pas réels. C'est-à-dire qu'on pouvait s'identifier, mais ça ne faisait pas de mal. Au contraire, on cherchait tous dans le groupe d'amis qui était Monica, qui était Phoebe, qui était Ross, et je trouvais surtout que il y avait une vraie qualité d'écriture par rapport aux autres séries comiques, c'est que les personnages évoluaient réellement, pas juste parce qu'ils se mariaient ou parce qu'ils avaient des enfants. C'était pas la question. C'était que il y avait vraiment, on les voyait voyait vieillir comme nous, on se sentait vieillir. Et je trouve que c'était ça la force de Friends. Et tout ça, alors après, je ne sais pas à quoi tu ris, mais quand même, que tu n'aies jamais ri à Friends.
Ça, je comprends pas. Je ris, mais rire jamais.
Moi, j'ai vraiment. Et pourtant, il y a des scènes complètement loufoques dans Friends. Et je ne sais pas tellement mon humour, mais il y a des scènes quand même qui m'ont fait mourir de rire, des situations aussi. Et pour le coup, je trouvais que c'était la première fois qu'une série comique me faisait rire. C'était... Après, il y a eu d'autres choses depuis, hein. Mais c'était la première fois que je voyais vraiment une série comique.
Même la chanson de Phoebe là, qu'on a essayé de me survendre pendant des années comme étant drôle.
Le personnage de Phoebe, il n'y en avait pas d'autres à la télévision avant de voir ce personnage-là.
Bon, franchement, en termes d'écriture, je rejoins Fabrice et je ne dis pas ça parce que je suis absolument fan. On ne peut pas dire que Friends ne soit pas hilarant. Franchement, c'est extrêmement bien écrit. Il y a plein de situations très très drôles sur les 10 saisons. Et moi, je les ai vues 1 milliard de fois, vous le savez. Et il y a des vannes, je les sais, parce que le truc, je l'ai vu qu'à soi. Et ça me fait toujours marrer. Et il y a un autre truc que moi, j'aime bien dans cette série qui m'a fait l'aimer aussi, c'est que donc les 6 là, qui à l'origine n'étaient personne ne les connaissait, c'était pas des acteurs connus. En fait, j'ai l'impression, ils ont grandi ensemble aussi, et il y avait une telle alchimie entre les 6 que toi, t'avais l'impression de faire partie de leur groupe. Et c'est pour ça, ce côté un peu nostalgie quand ça s'est arrêté, c'est parce qu'en fait, t'avais l'impression que les 6 potes que t'avais suivis pendant 10 ans, tu les verrais plus, alors que t'avais vraiment l'impression de faire partie de leur histoire, tu vois. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai retrouvé dans aucune autre série depuis. Après,
c'est un truc d'âge, ça. C'est lié à l'âge, en fait. Chaque génération a sa série qui marche, et c'est un moment où tu les rencontres, et c'est lié à l'âge. C'est logique.
La preuve que non, parce que tout le monde continue à regarder Friends, y compris les gamins qui ont 20 ans et qui, il y a 20 ans, Friends, c'était qu'ils avaient, tu vois, ça s'est arrêté il y a 16 ans, donc ils avaient 4 ans quand ça s'est arrêté, tu vois. Aujourd'hui, ils le regardent.
Oui, mais c'est une génération, mais c'est de génération de trentenaires. Tous les trentenaires peuvent se retrouver chaque fois dans cette série au moment où ils sont trentenaires. C'est ça qui est quand même assez fort par rapport à d'autres séries qui effectivement vieillissent. Moi, je trouve que effectivement les looks ont vieilli, etc., les coiffures, etc. Mais il y a bon, après, je dis pas moi quand ils ont dit au revoir, j'étais ému qu'ils s'en aillent, mais je me suis dit c'est bien aussi, il faut que ça s'arrête, parce que c'est-à-dire que je trouve qu'à un moment donné, il y a toujours la saison de trop, le truc, et donc c'était très bien, il fallait que ça s'arrête.
Pour moi, l'arrêt de Friends, ça a été exactement, vous voyez la fin de Truman Show, quand tout le monde est là à se dire, oh mon Dieu, ça va se finir, ça va se finir, et puis en fait, ça se finit, et t'éteins la télé, et tu reprends ta vie. Et ça change.
Non, regarde, ça s'est arrêté, et il reste des gens, et parce que je ne suis pas la seule, à le re-regarder. Tellement il y a un espèce de... Après, moi, j'ai pas envie de...
Je suis ensemble encore là, ou je sais pas quoi, c'est...
Non, c'est pas du tout un vrai épisode, c'est une réunion. En fait, comme ils l'avaient fait il y a quelques années, sauf qu'ils étaient pas là les 6, là, ils seront vraiment là les 6, en fait, ils vont se remémorer des souvenirs de tournage, et c'est pas du tout un nouvel épisode. Et même moi, qui suis super fan, je suis contre un nouvel épisode. Parce qu'en fait, c'était tellement bien, et c'est tellement parfait dans ma tête, que je sais très bien que je vais être déçue. Alors, je vais kiffer, mais ils ont trop à perdre pour refaire un nouvel épisode. Là, c'est vraiment juste, grosso modo, les 6 acteurs qui, pour la première fois, se réunissent devant une caméra pour revenir sur leurs souvenirs, parce que ça arrive sur HBO Max aux États-Unis.
Et alors, moi, la vraie.
Émilie, toi qui es super fan de la série, est-ce que tu as réussi à trouver une nouvelle œuvre qui te fasse rire, que tu vas regarder pour son potentiel comique?
Ah oui, il y en a quelques-unes, mais enfin, il y en a très peu récentes, parce que moi, je suis très nostalgique des sitcoms des années 90. Moi, j'adorais Dingue de toi, j'adorais Dharma et Greg, j'adorais Will and Grace. Enfin, tu vois, c'était des trucs, moi, pour moi. Seinfeld, voilà. Pour moi, la sitcom, c'est vraiment un truc qui me plaît, mais plus des années 90. Après, il y en a certaines aujourd'hui que j'aime bien, genre Brooklyn Nine-Nine me fait mourir de rire. C'est vraiment un truc qui m'amuse beaucoup. Je trouve que Jack Peruda, là, le personnage principal, l'acteur est très très bon. J'aime bien le côté super décalé. Terry Crews, là, le grand blague, en plus j'ai rencontré à Monte Carlo, il est très sympa, très drôle. Le gros nounours avec une carrure de videur où tu te dis une fouille claque, je vais faire 3 tours dans mon slip, ça va être un enfer. Et en fait au final, c'est un mec adorable.
Qui est-ce qui joue dans la série?
Terry Crews.
Personnage féminin. Personnage féminin, Archie Panjabi.
Dans Brooklyn Nine-Nine.
Oui, absolument. Elle joue dedans. Ouais.
Ah bah tu vois, je la déteste tellement que j'ai même pas fait gaffe. Okay. J'ai beaucoup aimé The Good Place aussi, que je trouvais hyper original. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette série là. Après, dans l'absolu, je trouve qu'en termes de séries comiques, on est un peu pauvres. Il y en a pas beaucoup qui m'ont marqué plus que ça ces dernières années. Depuis Friends, il n'y a pas beaucoup.
Pour moi, le problème, c'est que Friends a tellement marqué les esprits, c'est que, qu'après, la plupart des productions voulaient ressembler à Friends et se disaient, il faut qu'on réutilise à peu près les mêmes ficelles. Donc, ils se sont tous foutus un peu dedans, puisque c'est pas la peine de vouloir refaire la même chose. Alors, moi, c'est vrai que j'ai bien aimé The Big Bang Theory, mais je trouve qu'ils refermaient le truc sur des geeks. Bon, très bien. 12 saisons, c'est trop long. Je trouve qu'il y a du rythme, ça, ils savent écrire, c'est à l'américaine, mais ça pas révolutionné quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'effectivement, il faut aller chercher plus du côté des Anglais ou comme ça. J'en ai déjà parlé, mais j'ai adoré Fleabag. Voilà. Moi, je trouve que maintenant il faut apprendre à pousser le curseur un petit peu plus loin, se lâcher un peu plus, peut-être s'adapter davantage au sujet actuel. Et donc du coup, c'est plutôt du côté des Anglais que, en général, je trouve Chewing Gum. J'avais trouvé ça très bien parce qu'il y a un truc complètement déjanté et puis en même temps qui était assez transgressif. Donc voilà, à force de vouloir refaire Friends, tout le monde va se foutre dedans parce que bon, on peut pas refaire Friends, c'est pas la peine de chercher à continuer quoi.
Il y a en France aussi, hein. Je suis désolée, mais des trucs comme Kaamelott. Des trucs comme Bref, moi, c'est des trucs qui m'ont fait mourir de rire. Ouais. Et donc, tu vois, pour une fois, faisant un peu cocorico, de dire, c'est hyper bien écrit, c'est bien joué. Et Kaamelott, c'est exceptionnel.
On peut parler.
Et si Céline était là, il aurait parlé de H également, sans doute.
Ouais. Ah oui.
C'est sa cam.
Je suis très contente de voir que personne ne m'a parlé de How I Met Your Mother, qui est juste un sous-friends. Et ça, je n'entendrai aucun argument contre cet avis-là. Voilà, je vous le dis. C'est
clair et net. C'est marrant. J'ai une lecture, moi, hyper conservatrice, hein, de Friends. Je trouve qu'ils ont changé. Vous avez raison, c'est un groupe d'amis parce qu'ils ont, c'était l'originalité du principe, mais ils t'ont fait un groupe d'amis qui représente la famille. Et moi, j'ai regardé l'histoire d'amour naître de Monica et Chandler comme un aveu d'échec absolu sur la vie, où à un moment donné, à force de ne pas oser sortir sur l'extérieur et d'être pris des mandales à l'extérieur, et bah, tu finis par faire du dépit et apprendre ce qu'il y a sous ton nez, quoi.
Pas du tout.
Mais c'est la vie, c'est ça, la vie.
Ah bah, merci. Et bah, pas la mienne.
C'est quoi? Monica et Chandler, c'est même le meilleur couple de tout Friends. C'est pas Rachel et Ross. Rachel et Ross, on s'en bat les couilles. Eux, effectivement, c'est bon, on revient l'un sur l'autre et tout. Monica et Chandler, c'est juste de découvrir que, bah, effectivement, quoi, l'amour de ta vie, c'est sans doute ton meilleur ami, la personne
dont tu es. Je refuse cette idée, je déteste. Voilà.
Et surtout, ce que j'aime dans ce couple-là, c'est qu'ils se font grandir l'un l'autre, ce qui n'est pas le cas de Ross et Rachel. Chandler, avec Monica, il grandit, il devient plus mature. Et exactement pareil pour Monica, qui se calme un petit peu. Et non, tu peux pas dire ça sur Monica et Chandler. Putain,
quand on vous parle d'un débat sur les séries comiques, quand même, vous revenez, que vous aimiez ou pas, vous revenez forcément sur Friends à la fin pour ne parler que de ça, ce qui tend à prouver que, qu'on soit dans le camp de Virginie qui n'aime pas, c'est-à-dire les trois personnes dans le monde qui n'ont pas aimé, ou tout le reste de la population, de toute façon, on finit par revenir à cette série qui est un jalon et qu'on n'a peut-être pas complètement dépassé. Vous me parlez pas d'un autre genre que moi j'aime bien, qui s'appelle le mockumentary, c'est-à-dire cette espèce de d'intégration d'un tournage documentaire. The Office avait initié ça. Je sais pas si vous avez vu, il y a une série. Alors j'ai plus mon conducteur sous les yeux, donc j'ai pas le nom de la série. C'est sur les vampires, c'est What We Do in the Shadows, je crois, qui réinvente le mythe des vampires avec le tournage d'un documentaire. C'est à mourir de rire, vraiment. C'est totalement étonnant, mais
il y a Virginie qui essaye de parler, mais t'as muté Virginie.
Alors, je n'ai pas muté Virginie.
Non, elle.
Je me suis auto-mutée.
Tu t'es mutée toute seule.
Ça n'arrive jamais.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Virginie?
Non, What We Do in the Shadow, j'adore. Très, très drôle. C'est anglais, il me semble bien.
C'est une bonne question. Je ne sais pas
si en gros, que font les vampires, quoi? Le reste de la journée, quand ils sont pas là de courir derrière pour sucer ton sang, ils ont une vie à vivre.
Réinventer le mythe des vampires, qui a quand même été jusqu'à la moelle, quoi. On l'a vu, revu, on n'en peut plus. Là, ils arrivent encore à trouver un truc qui le rend original, intéressant et drôle. C'est what the fuck, mais c'est très drôle. Je vous conseille.
Pour autant, est-ce que tu penses que dans 20 ans, on en reparlera?
Ah bah, moi, je peux te dire que dans What We Do in the Shadow aura beaucoup plus influencé ma pensée dans 20 ans que Friends, oui, ça.
Mais alors, toi, Virginie, tu as compris. Après, pour te répondre, Émilie, on parle quand même encore de The Office. C'est pas le même phénomène de société, mais quand même.
The Office
a marqué un jalon important, donc je pense qu'effectivement, ça peut être à ce niveau-là.
Et pardon, parce que moi, le dernier énorme fou rire que j'ai eu, alors, catastrophe vraiment très drôle, allez voir. Mais dans les séries où j'ai pleuré, c'est The Extras. On en a parlé de The Extras. Quelqu'un a vu The Extras? Alors, non, vous êtes sérieux ou pas? Ah, mais alors là, c'est une lacune.
On est toujours dans le débat sur les séries comiques, là, on est d'accord.
Non, mais les mecs, c'est un débat à combler terrible. C'est Ricky Gervais, d'accord? Il est figurant et il veut devenir acteur. Et donc, chaque épisode, il est figurant sur un tournage et il essaye de passer vraiment acteur parlant, quoi. Et donc, tu es sur tous les tournages avec Ricky Gervais, avec toujours une guest star extraordinaire. Émilie, regarde l'épisode avec Kate Winslet, tu vas devenir baboule. Tellement il est génial, l'épisode. Et donc, à chaque fois, il y a une resta qui est, donc il est sur le tournage, donc il y a une star et il essaye de, tu vois, de pactiser un peu avec la star, etc. Et c'est Ricky Gervais. Donc, c'est politiquement incorrect. C'est humainement extrêmement méchant, mais bienvenue sur toutes les médiocrités de l'humanité, du star.
Je l'adorais.
C'est extraordinaire. Mais The Extras, il y a 3 saisons. Mais vous m'appelez demain pour me remercier, hein, je vous le dis.
Ça passe sur quoi?
Ça passe sur ton ordinateur.
D'accord. Attends, on va regarder, ça doit passer quelque part.
On va regarder sur Just Watch, là, le site que tu nous as conseillé.
Exactement. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on recherche une série sur Google, la plupart du temps, Google indique les endroits où on peut le visionner. C'est assez récent.
C'est très bien.
Semaine. En tout cas, je le remarque de plus en plus systématiquement. Donc, c'est un moyen peut-être simple et direct de savoir où est-ce que ça passe. Les enfants, on a dépassé l'heure à laquelle on a droit. Il faut qu'on se quitte. Je fais tout ça sans conducteur, je le rappelle. Donc peut-être qu'il y avait 15 séquences encore et je les ai oubliées, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes comme d'habitude, sur la radio, Beta Série, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous dire du bien, nous dire du mal ou nous demander des séries auxquelles
vous voudriez qu'on parle.
Le hashtag c'est Beta Série Oh My God et on se l'est déjà un peu dit, on va avoir une saison 2 pour Oh My God, on va se retrouver à la rentrée, ça va être trop cool, il nous tarde de passer un bon été et on se reparle très vite. Ciao.
Oh My God, l'émission décomplexée sur les séries présentée par Éric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.